Bras zéro, brassage radio. Aujourd'hui, on reçoit deux membres des archives TPBGI de Derrière les Fagottes. Bonsoir.
Bonsoir.
Il paraît que les fagottes auraient aussi servi à allumer les bûchers destinés aux déviantes, aux invertis,
qu'on appelait les fagottes en anglais. C'est cette interprétation que nous avons choisi de suivre. Alors, réapproprions-nous ces flammes et faisons renaître nos mémoires de leurs cendres.
Ce texte est une archive Instagram du collectif en mai 2023. Et ce soir à Bras zéro, c'est bien d'archives dont on va parler. Comment on fait archive? Comment on fait mémoire collective? Pour ne pas toujours inventer le fil à couper le beurre, ou l'inventer justement parce qu'il manque. Comment on se souvient? On voit les boucles, les racines, les ressources et les problèmes à résoudre. Comment on capte que nos pensées, nos mouvements politiques sont construits par strates, les unes sur les autres, pour espérer un jour que le poids de nos expériences provoqueront l'avalanche. Pour répondre à toutes ces questions, les archives TPBGI, constituées en 2022, d'abord comme un collectif et aujourd'hui comme une association d'une quinzaine de membres, qui s'organise en mixité trans, PD, bi, gwyn, intersexe pour collecter, créer, conserver et mettre à disposition des archives à Toulouse et dans la région, et là pour répondre à nos questions. Alors, je passe le casque parce que ce soir nous avons deux casques qui marchent sur quatre pour poser cette première question qui est: est-ce que vous pouvez présenter le collectif et sa petite histoire?
Alors déjà, super présentation. Je vais pouvoir un peu squeezer quelques petits trucs. donc au début, les fagottes, c'était un groupe plutôt épars et nébuleux. C'était pas du tout un groupe affinitaire. On s'est constitué autour d'un post Facebook qui questionnait un peu la présence d'initiatives sur les archives queer. Et voilà, et après, du coup, on s'est réunis avec d'autres collectifs autour de dans toute la France. Donc, on a aussi trouvé des traces d'une rencontre qui a eu lieu en 2017 à Toulouse autour de ces questions. Et c'est une rencontre qui a permis un peu de relancer et de recréer d'autres collectifs queer autour des archives, notamment Mémoire minoritaire à Lyon ou Mémoire de sexualité à Marseille. Donc on a décidé, nous, de poursuivre ces réflexions. Enfin, je dis nous, j'étais pas là, mais nous. On a décidé de poursuivre ces réflexions et on a lancé un collectif sans avoir forcément de fonds d'archives au préalable. Vraiment, on s'est lancé dans l'aventure « Let's go ». Au début, on avait des locaux, même si on n'avait pas grand-chose dedans. On était aussi né Utopia Bordeaux-Rouge, dans un petit local caché voilà, à la vue du public. Puis ensuite, on a été au Chat Noir. Et après, manque d'argent, on a été obligé de se relocaliser dans un endroit un peu plus précaire, dans une habitation toulousaine. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé au niveau de la récolte. On a environ 10 mètres linéaires, soit environ 3 grands placards. Voilà, on y stocke beaucoup de magazines, des livres, des affiches, des pancartes, du matos de manif, autres. Et aussi, on a aussi un petit stock de films et de livres aussi. On a quelques livres qui tournent autour de certains sujets comme le Pax voilà, des livres de Jean Genet ou des livres autres dont je n'ai pas le souvenir. Donc ouais, on est basé à Toulouse, mais comme c'est le dit dans notre nom, on est un peu plus largement dans le sud-ouest, donc surtout autour de Toulouse. Et aussi on essaye de travailler avec des collectifs queer et des lieux queer aux alentours, dans la ruralité notamment. Voilà, donc plus au niveau du fonctionnement, en fait, on se réunit deux fois par mois. Voilà, On est une quinzaine, avec pas toujours les mêmes personnes, mais globalement un petit noyau de fidèles, très actifs. Et voilà, les tâches, elles tournent, enfin les tâches récurrentes, ce qu'on fait de façon administrative, la compta, tout ça, les trucs un peu relous, la com, etc. Voilà, sinon, y a pas vraiment de pôle, en fait, c'est en fonction des événements et en fonction des choses récurrentes qu'on fait. Mais en fonction des envies, du désir de chacun, chacune. Voilà. Donc, sinon, on a fait pas mal d'événements ces dernières années, aussi pour nous visibiliser, mais aussi pour récolter parfois un peu d'argent, et aussi pour essayer de voilà d'attirer un petit peu les archives à nous, qu'il y ait voilà un peu plus de visibilité de cette initiative. Et là, en ce moment, depuis l'année dernière, on essaie un peu plus de se concentrer sur le travail documentaire à proprement parler. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et on fait de la diffusion aussi, notamment avec un ciné-club saisonnier. Saisonnier parce que c'est vraiment printemps, été, automne, hiver. je ne pourrais pas vous dire quand est le prochain.
En hiver, probablement.
voilà. Et aussi, on se retrouve souvent entre nous de façon annuelle, lors de résidences ou lors de formations irrégulières, mais très qualitatives, notamment autour des histoires des luttes trans et sur les mouvements d'archives queer dans l'histoire. Voilà. Sinon, ben, vous pouvez évidemment suivre nos communications sur Insta et via notre newsletter par mail qui est extrêmement régulière, et aussi sur Yata, voilà, où on publie quelques événements quand on en fait. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc en fait, après, en 2022, en se créant, on a aussi rejoint le collectif Big Data.
Ouais. Je veux bien le casque aussi parce que j'entends pas, je crois.
Mais en fait, moi non plus, je m'entends pas dans ce casque.
On a un problème de casque.
On a rejoint le réseau Big Data en 2022. Et le réseau Big Data, c'est un réseau de collectifs d'archives et de bibliothèques LGBTQIA+, qui a été créé en 2021 et qui rassemble du coup une quinzaine de collectifs membres. Il y a quand même une question intergénérationnelle parce qu'il y a des collectifs plus ou moins récents. Par exemple, il y a Mémoire des sexualités à Marseille qui a été, ou les ARCL à Paris, Archives Recherche Culture Lesbienne, qui sont des assos qui datent du début des années 80. Et alors que nous, on a 3 ans, quoi. et donc, être en réseau, ça nous permet d'échanger des pratiques, de se soutenir moralement et financièrement, et puis d'avoir un socle solide pour faire vivre les mémoires queer et lutter contre l'instrumentalisation de nos luttes. Du coup, avec Big Data, on fait des rencontres annuelles. On a fait notre 3e rencontre cet été à la Guépie, à côté de Toulouse. Avant, il y avait eu une rencontre à Marseille et une autre à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon. Donc en général, c'est des moments où on fait des ateliers. Ça peut être des ateliers techniques comme faire un inventaire ou du récollement. Donc le récollement, c'est un terme un peu technique, mais c'est la vérification des fonds, voir si tout est bien comme dans l'inventaire. C'est aussi une étape où on va décider de ce qu'on va garder ou pas dans un fonds.
On va faire le récollement, t'as dit ?
Le récollement.
Le récollement.
Ouais.
OK.
On peut faire aussi des ateliers sur un fond spécifique. Par exemple, on avait appris à indexer des photographies à partir de photos de marche des fiertés. Mmh. Et indexer, c'est renseigner le plus d'informations possible sur le document pour pouvoir identifier les thèmes principaux du document. Par exemple, sur une image, on va la décrire, on va donner la date, les mots-clés. Tout ça va permettre de retrouver facilement la photo en fait dans un ensemble d'autres photos. On fait aussi des ateliers sur des questions de fond, par exemple sur l'accès aux archives ou sur la manière dont on finance le réseau, avec par exemple des discussions sur un modèle économique qui permet de ne pas dépendre des subventions au cas où elles disparaîtraient. Pendant les rencontres, on a aussi des moments d'ouverture au public, avec des prises de parole, des performances, des concerts. Et c'est aussi un moment où on va faire l'assemblée générale de Big Data. Et donc dans Big Tata, il y a deux autres réseaux. Il y a Turbo Trans et Archigouin. Donc c'est des groupes qui ont été créés autour de l'intérêt pour les archives trans et pour les archives lesbiennes. C'est des groupes qui rassemblent des membres de tous les collectifs de Big Tata autour de cette collecte, de cette valorisation des archives trans et lesbiennes. Et pour Archigouin, on a fait les premières rencontres à Toulouse l'année dernière, en avril dernier. C'était trop bien. Et du coup, en gros, Archigouin, ça part du constat qu'on est beaucoup de collectifs mixtes et qu'on a plutôt des fonds PD gays. Donc l'idée, c'est de s'organiser pour recueillir des mémoires lesbiennes et pour les valoriser au sein de nos collectifs et en dehors. Et du coup, on échange sur nos fonds, on va essayer de les compléter. On sait aussi où sont les choses, c'est-à-dire qu'en se parlant, c'est-à-dire que par exemple, aux ARCL, donc aux Archives Recherche et Culture Lesbienne de Paris, il y a un fonds qui concerne les lesbiennes du Sud-Ouest et notamment de Toulouse. Et du coup, c'est aussi important pour nous à Toulouse de s'intéresser à ces mémoires lesbiennes, parce que Toulouse Lesbopole. Donc voilà.
Si vous ne le saviez pas.
Justement, il me semble que vous aviez pendant ces rencontres Archigouin ou
ouais, non, c'était Big Tata. C'était Big Tata.
Et pendant ces rencontres, il y avait eu un petit enregistrement de chorale qu'on va écouter tout de suite avant de passer à la suite.
Toi, ma voisine, elle me donne plein de magazines. On mate des photos coquines avec des jolies trombines. On cherche les bonnes adresses pour aller mater des fesses. On lit les petites annonces sans oublier les références. On va rendre la parole, celle des tatas et des folles. Picoler, créer, sauver les mémoires des TPG. Queer, queer, lions-nous. Big Tata, rassemblons-nous. En réseau pour être plus gros contre tous les fachos.
Petite annonce 2024.
Et voilà. C'est à moi de vous poser une question. On avait envie de savoir, vous, individuellement, comment vous vous êtes retrouvés là-dedans. C'est quoi votre petite histoire ? À vous deux, si vous voulez bien nous la raconter.
Ouais, tu veux que je commence? Alors, moi j'ai une attache particulière, par particulière j'entends assez émotionnelle, aux archives familiales d'abord, parce que étant petit, ça m'a permis d'avoir accès à l'existence et à la vie des personnes qui étaient très proches de moi, mais que j'ai pas connues, notamment mon papa. Et en fait, ça m'a permis très tôt de me reconstituer un petit peu ce que c'était sa vie, son caractère, etc. Et en grandissant, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus, un peu plus queer, que j'ai étendu à des questions beaucoup plus larges. Voilà, moi j'ai grandi dans un milieu rural et j'avais zéro idée que ça existait ailleurs dans le temps et ailleurs dans l'espace. Donc en fait, c'est quelque chose où j'ai fait vite des recherches dessus. Et j'avais déjà lu quelques petits trucs sur les déportés homosexuels quand j'avais fait mes cours d'histoire, parce que ça avait été évoqué. Il y avait deux mots dans le cours d'histoire qui parlaient de ça m'avait un peu énervé, sans que je sois out à l'époque. Et plus globalement, j'avais juste envie d'avoir... j'avais un gros désir d'avoir accès aux traces et aux vies vraiment des personnes queer d'avant qui ont précédé. J'ai été en fait très ému quand j'ai appris toute l'ampleur qu'avait été l'épidémie du VIH/SIDA. En fait, ça m'avait vraiment bouleversé de me dire en fait, il n'y aura personne de l'âge de mes parents qui a été PD ou qui a été Gwyn autour de moi. Et ça m'avait vraiment... ça m'avait vraiment trop démoralisé. Voilà. Donc c'est aussi... Voilà. Maintenant, c'est aussi un désir de garder des traces de nous, les queers d'aujourd'hui. Et pour les queers de plus tard.
Merci Rémi pour tout ça. Moi, j'ai... pareil, sur ce besoin de traces, c'était quelque chose qui m'animait beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à la lutte contre le sida aussi. Et du coup, c'était vraiment un endroit de recherche assez important pour moi. En fait, je suis partie de Toulouse pendant à peu près 10 ans et j'ai un peu traîné à Mémoire des sexualités à Marseille et dans d'autres collectifs, et ça m'a vraiment, quand je suis revenue à Toulouse, ça m'a vraiment donné envie de partir sur les traces des TPG toulousains, toulousaines, et du coup c'était un peu ça qui m'a animée aussi au début et qui continue de m'animer.
Les deux, vous savez combien de temps vous êtes dans ce collectif ?
Moi, depuis le début.
Ok.
Moi, je suis arrivée, une débutante. Je suis arrivée janvier 2025, premier ciné-club de l'année.
Ok. T'es arrivée à Toulouse et t'as rejoint le collectif.
Ouais, je suis arrivée à Toulouse et puis ça a été mon premier réflexe.
Yes. Merci. Et du coup, est-ce que, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est finalement une archive ou des archives ?
Ok. En fait, les archives, c'est vraiment assez flou et en même temps, c'est un truc assez figé. C'est quand même quelque chose qui est assez institutionnel, institutionnalisé. Vraiment, on voit vraiment ça comme quelque chose qui est classé, qu'on range au placard et qui est un peu poussiéreux, qui est difficile d'accès. Et c'est le cas des choses qui sont archivées au niveau des archives nationales qui concernent nos communautés. Où c'est des choses qui sont, à mon avis personnel, très mal référencées et qui sont très difficiles à consulter. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être visibles, mais voilà, c'est il y a des spécificités qui sont quand même pas trop prises en compte. Donc c'est pour ça que nous on préfère un peu le terme de mémoire plutôt que qu'archive. Voilà, on trouve que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus, voilà, qui rend beaucoup plus compte de ce qu'on fait en fait et de ce que c'est vraiment pour nous. Dans le sens où les mémoires, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide et libre et qui se transmet de façon beaucoup plus sous le manteau, voilà, des trucs il y a quelque chose de plus de plus libre.
Et parce que du coup c'est vrai que ça me fait penser à ça ce que tu dis, c'est genre quand on pense archive, on pense genre un bâtiment dans lequel on peut pas rentrer, dans lequel il y a genre plein de gens qu'on connaît pas, il faut une carte, et le bâtiment il est gris, il y en a dans plein de films, enfin voilà, du coup vous préférez mémoire au sens... Ouais.
C'est aussi parce qu'on a un collectif qui fait vivre les mémoires, et qui fait pas que du stockage et de l'inventaire. On veut vraiment les valoriser, et on est en recherche active, et en réception aussi, on accueille aussi les dons et tout, donc en fait on est et on a une réflexion aussi sur les mémoires qu'on accueille, et on n'a pas du tout envie d'être institutionnalisé, parce que on veut garder notre positionnement et notre marqueur politique et de lutte.
Ouais, plus pratico-pratique aussi, on n'a pas de quoi faire des permanences, la manière de pouvoir rendre accessibles ces archives-là, c'est de les proposer pendant des événements et d'en parler pendant des événements.
Et est-ce que, parce que du coup, vous avez une ou deux fois là dit que c'était aussi pour ne pas se faire un peu comme réapproprier nos histoires. Est-ce que dans les archives un peu institutionnelles, du coup, il y a des critères pour pouvoir y avoir accès il me semblait que vous disiez ça la dernière fois, c'est que si on donne des archives dans ces lieux, après, tu peux pas les consulter pendant tant de temps. Enfin, du coup, j'ai l'impression qu'il y a des contraintes que peut-être vous avez pas.
Du coup, il y a des types de contrats qu'on passe avec, les institutions passent avec les personnes qui donnent. On peut faire un contrat de don ou un contrat de dépôt. Et du coup, par exemple, l'association Aide Nationale, elle a fait un dépôt aux archives nationales, je crois. Donc un dépôt de ces archives et du coup elles appartiennent toujours à Aide en fait, donc c'est un peu plus compliqué si quelqu'un veut aller les consulter parce qu'il faut passer par plusieurs portes avant d'y aller, mais c'est quand même plus safe parce que ça appartient toujours à Aide. Act Up Paris avait fait, si je me trompe pas, un don aux archives nationales à un moment où ils croyaient que qu'ils allaient devoir fermer boutique mais là du coup l'OFAN a été traité récemment il me semble et je sais qu'il y a des choses qui sont accessibles voilà, mais du coup c'est assez touchy de il faut bien faire attention aux contrats qu'on passe avec les institutions quand on est une asso ou quand on est un collectif ou quand on est une personne, parce que c'est possible que ça soit jamais traité comme il faut, parce qu'il y a un délai d'une cinquantaine d'années, je crois, avant de pouvoir avoir accès à certaines archives, parce que pour des raisons de données personnelles et de lois qui empêchent d'avoir accès à des données personnelles.
Donc, comment on accède aux archives? C'est ça qu'on vient de parler un petit peu.
Après, vous, du coup, vous avez dit que vous aviez comme 10 mètres d'archives.
10 mètres.
peut-être vous pouvez nous raconter un peu comment vous les avez obtenues et comment vous continuez à obtenir ces archives. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui vous les donnent? Est-ce que vous allez les chercher?
Du coup, quand on a commencé, on avait vraiment rien, on n'avait pas de fonds. Du coup, on a fait des ateliers de création d'archives où les gens venaient raconter leur histoire. Un des premiers, c'était à la fête du kiosque, d'ailleurs. Du coup, ils venaient raconter leur histoire, l'histoire d'un lieu TPG où ils avaient traîné, les endroits où ils étaient tombés amoureux, où ils avaient baisé, où ils s'étaient séparés. Et comme ça, on a rencontré des personnes et des collectifs qui nous ont confié des magazines, des photos, des vidéos, plein de choses de ce genre. Et le premier fonds qu'on a eu, c'est celui d'Act Up Sud-Ouest. En fait, ils changeaient de local. Et ils ont fait du tri et ils nous ont donné plusieurs cartons de doublons et de pancartes de manif, comme l'a dit Rémi tout à l'heure. Et depuis, on fait pas mal de choses avec Act Up Sud-Ouest. Et du coup, c'est aussi important d'en parler aujourd'hui parce que c'est le 1er décembre et c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Du coup, on essaie de faire pas mal de choses avec Act Up autour de leur mémoire. Par exemple, l'année dernière, on a fait un événement autour de petites annonces. Je crois qu'on va en entendre quelques-unes tout à l'heure. Et Act Up avait animé un atelier autour de la manière dont l'État a réécrit les mémoires queer des personnes qui passent devant l'OFPRA et la CNDA, donc les institutions qui gèrent les demandes d'asile. À Archigouin, avec Act Up, on a fait cette année un atelier autour de la place des lesbiennes dans la lutte contre le sida. Et on est aussi en train de monter un groupe de travail avec les militantes d'Act Up autour de leur mémoire. On peut aussi raconter d'autres histoires de fonds. Par exemple, on a un fonds de photos de manif, de marche des fiertés. Et en fait, on l'a obtenu parce que on feuilletait le magazine Lesbia, donc il y a un magazine lesbien des années 80, 90, 2000. Et on est tombé sur des photos de couples de lesbiennes qui ont interpellé un camarade qui les avait déjà vus quelque part et qui a contacté la photographe parce que ça l'intéressait de savoir un peu son parcours, tout ça. Et la photographe nous a envoyé carrément donner un tas de photos de Marche des Fiertés des années 2000. Donc ça c'est une des manières de collecter aussi. Après avec le réseau Big Data, on a accès à plein de doublons, plein de choses que les autres collectifs ont en double ou en triple et qu'on nous donne. On peut raconter l'histoire de Jean-Paul aussi qu'on a rencontré grâce au collectif Offense qui faisait un travail autour de vieillir LGBT. Et lui, il nous a donné sa collection de magazines Guépier, Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment le moment de rencontre où il nous a parlé de sa vie, des endroits où il sortait. C'est toujours très émouvant d'avoir accès à ça aussi. Et bah, pour finir, peut-être comment ça se passe concrètement quand quelqu'un nous donne ses archives. On se rencontre, on présente le collectif, on voit avec la personne ce qu'elle a envie que ses archives deviennent. Par exemple, si elle veut restreindre l'accès aussi. Par exemple, on a eu des discussions autour de la question de donner accès ou pas à des chercheurs ou à des artistes, et à quelles conditions. Et en fait, l'idée avec ça, c'est d'éviter une sorte d'extractivisme des archives. Donc, on peut par exemple demander des contreparties, comme donner son temps pour inventorier un fonds, ou voilà, des choses comme ça.
Et on aurait pu la poser au début, mais on la pose maintenant. Pourquoi faire des archives?
Tu veux que je réponde?
Vas-y, j'aurai un petit truc après, mais vas-y.
Du coup, comme vous l'avez dit dans l'intro aussi, pour pas... Enfin, t'as utilisé notre expression, mais pour pas réinventer l'eau chaude. Il y a eu en fait un grand nombre d'initiatives autour des archives et des mémoires queer, par exemple au début des années 80, aux universités d'été des homosexualités, il y a eu un appel à créer une fondation du patrimoine homosexuel. Et l'année d'après, il y a l'association Mémoire des sexualités qui a été créée à Marseille. Et là, à ce moment-là, ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'urgence de protéger la culture homosexuelle contre la destruction, notamment ce qu'on appelle des exécuteurs testamentaires. Au même moment, à la même époque, il y a un groupe de lesbiennes radicales qui crée les ARCL, dont j'ai parlé tout à l'heure, les Archives Recherche et Culture Lesbienne. Elles sont dans une démarche qui va être un peu moins institutionnelle, et elles veulent faire davantage des archives par et pour les communautés lesbiennes. Et au début des années 80, ça va être un mouvement qui va s'essouffler à cause de l'épidémie de sida, parce que les militants et militantes ont d'autres priorités. Et puis petit à petit, il va y avoir aussi du mouvement autour de la mémoire de la lutte contre le sida. Et donc, faire des archives, c'est prendre soin de ces histoires-là et de celles de ces mouvements et des individus qui les ont composés, qui les composent.
C'est vrai qu'on voit beaucoup notre activité mémorielle au sein des fagottes comme quelque chose qui est de l'ordre du soin communautaire. C'est vraiment, comme on peut dire en anglais, le care, c'est vraiment se soucier d'eux et prendre soin d'eux. C'est réfléchir et mettre en pratique des pratiques de préservation et de soin de ce qui existe déjà. Donc c'est une manière de prendre soin de nos communautés au sens large.
Et du coup, on va carrément écouter des petits enregistrements d'archives qui ont été faits. Du coup, tu as parlé tout à l'heure du magazine Lesbia, qui était un magazine lesbienne, où dedans il y avait des petites annonces. Du coup, on en a lu quelques-unes et on en a fait un petit son, et il y a eu aussi des archives que vous avez refaites, des petites annonces que vous avez faites en 2024.
Ouais.
Donc je sais pas lequel on va diffuser là tout de suite, mais ce sera soit des annonces 2024, soit du magazine Lesbia.
Petite annonce 2024. Thesis for Thesis. Thésard timide, 29 ans, cherche H en postdoc ou en thèse. Pour me faire la classe, dispo de suite, kink, lunettes, kéfir et Cronenbourg.
Petite annonce 2024, tomber les murs. Fouch, au cœur tendre, cherche autre inverti pour se caresser à en faire tomber les murs, collectivement ou en binôme. Je cherche aussi les Saint-Tiacs de mes rêves, des places pour le prochain spectacle de Stromeneux et une belle âme qui me raconte des épopées TPG avant de, entre parenthèses, se coucher.
Petite annonce 2024. C'est doux d'être pédé avec toi. Je suis pendue à tes lèvres, à tes doigts, à tes yeux. Apprends-moi comment les garçons s'aiment.
Petite annonce 2024. Femme for Femme. Plus 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 édition. transfemmes qui se demandent « Où sommes-nous donc ?» Je me demande aussi où sont toutes les autres femmes du spectre. J'ai envie qu'on s'offre des poèmes en ASMR au creux de l'oreille. J'ai envie qu'on traîne sous la couette après avoir passé un moment à cuisiner. J'ai envie de tes lèvres humides sur les miennes. J'ai envie de traîner en groupe à pied et à vélo dans la rue au soleil et qu'on se baigne.
Alors, peut-être, vous l'avez deviné, c'était les petites annonces 2024. Et ça va, on va pouvoir faire le lien avec une question qu'on se posait. C'était comment vous sélectionnez ce que vous gardez, comment vous sélectionnez ce que vous montrez. Est-ce qu'il y a des trucs que vous vous dites, en fait, ça c'est hyper problématique, on le met pas? Ou est-ce que les trucs problématiques, en fait, il faut pas les cacher parce qu'ils font partie de nos histoires? Enfin, comment vous dealez ces questions-là dans votre collectif? Et je fais un passage de casque.
Merci. Alors, comment on sélectionne, c'est quand même, ouais, c'est au cœur de nos pratiques, je pense. C'est toujours des décisions collectives, en tout cas. On se base pas sur une personne pour savoir si on garde, parce que si on se basait sur moi, par exemple, il nous faudrait, je pense, deux BNF pour garder tout. Donc, en gros, voilà, on met en place une sorte de politique documentaire qu'on appelle tendrement PD et qui, voilà, donne une ligne directrice un petit peu à ce qu'on va sélectionner. Donc voilà, c'est une politique documentaire qui a été réfléchie avec beaucoup, beaucoup de fagotes et ça, c'est une réflexion qui s'est un peu étendue dans le temps. Et donc, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on va garder. On va se poser des questions de la place que ça prend, la nature des archives qu'on nous propose. Est-ce qu'on peut vraiment les garder matériellement? Est-ce qu'on peut assurer une bonne conservation? Est-ce que c'est pas des choses qui n'ont absolument rien à voir? Genre, je sais pas, la biographie de Jean-Jacques Coleman. Bon, à la limite, si c'est une archive... une archive de Coccinelle qui l'a noté, pourquoi pas, mais voilà, c'est à réfléchir. Voilà, ça dépend aussi. Voilà, si on a déjà, en fait, par exemple, on a pas mal de magazines gays des années 80-90, donc les Gays Pieds, on en a une bonne centaine. Bon, franchement, c'est super, mais si on nous repropose le même fond, voilà, faudra qu'on réfléchisse à la spécificité de ce qu'on nous donne. Et, voilà, et pareil, si c'est à noter, si ça a appartenu à une personne en particulier, voilà, et voilà, toujours chercher le contexte, en fait.
Ouais, ce qui est bien aussi dans ces moments-là, c'est que, enfin, si on a trop, enfin, des doublons par exemple dans le réseau, on peut se les échanger aussi. Ça fait que tout est un peu réparti et consultable dans notre ville, quoi.
Ouais, carrément. Ouais. Et en tout cas, on garde jamais quelque chose sans se questionner sur ce que c'est. Voilà, si on n'est pas d'accord avec l'opinion politique de la personne ou du groupe de personnes qui nous qui nous propose quelque chose, on va pas forcément censurer, quoi. On va surtout, comme on n'arrête pas de le dire, voilà, contextualiser. On va vouloir en faire quelque chose pour pas que ça aussi ça s'oublie.
Ouais, en fait c'est ça, on fait vraiment un travail de contextualisation et on va rien montrer, on va rien montrer sans dire où on se situe par rapport à la mémoire et à ce qu'on montre. Et du coup, on censure pas ce qui nous plaît pas, mais on va tenir un discours critique de nos mémoires, puisque c'est pas toujours reluisant, quoi. Et c'est important de garder des traces de ça aussi. Et par exemple, quand on a fait Archigouine avec l'atelier ACT UP sur les mémoires des lesbiennes en lutte contre le VIH, contre le sida, les personnes ouvraient un carton et faisaient un effeuillage avec les textes choisis. Et on s'était demandé à ce moment-là comment faire si on tombait sur des choses un peu hardcore, sur de la transphobie, de la sérophobie qui venait de nos propres communautés. Et du coup, ça a permis aussi d'en parler collectivement et de faire ces découvertes ensemble et de se dire aussi que l'idée, c'est que ça tombe pas entre n'importe quelle main. Donc toujours savoir ce qu'il y a dans nos fonds et toujours mettre des étiquettes, des triggers un peu. Voilà, et... J'avais un autre exemple aussi pendant un atelier de catalogage catalogage de livres que j'avais fait à Mémoire des sexualités. Il y avait un livre qui avait il y en a plusieurs probablement, mais en tout cas là il y en avait un qui avait du contenu pédophile, et du coup plutôt que de jeter le livre ou l'effacer, c'est quelque chose qui a été noté dans la fiche du livre catalogué pour qu'on puisse être informé sur le contenu. On a écouté les petites annonces tout à l'heure. Y a, donc, dans cet événement qu'on avait fait autour des petites annonces, on avait fait des lectures et y a certaines des petites annonces qui avaient des propos, enfin qui montraient des propos racistes et fétichistes. Et du coup, en parallèle de ça, on avait des archives de la même époque qui venaient rendre compte, critiquer le racisme dans le milieu gay, enfin qui apportaient un discours critique de cette époque-là aussi sur le contenu de ces petites annonces.
Parce que j'imagine, enfin ça me fait penser à ça aussi, mais du coup il y a ce qui est visible et vous amenez du contexte ou en tout cas vous amenez une critique ou une vigilance quand on a accès à telle ou telle chose, enfin de savoir avant de se retrouver dedans. Mais j'imagine qu'il y a aussi toute la question de ce qui est absent, tout ce qui est invisible, toutes les archives qu'on n'a pas. Enfin moi je me demande aussi c'est de qui qu'on peut avoir les archives, c'est de qui qu'on n'aura jamais les archives. Enfin, faire archives, c'était déjà, j'imagine, je vous demande aussi, mais j'imagine c'était déjà avoir une organisation, enfin un collectif peut-être un peu visible, mais j'imagine que si c'était des collectifs encore moins visibles, les archives, elles sont encore plus difficiles à trouver. Et donc, c'est pas une question piège, mais je me dis qu'il y a aussi l'archive de toutes ces absences, quoi. Enfin, que ça aussi, ça fait archive, finalement, toutes les absences de plein de groupes, ou en tout cas de mouvements qui ont existé et dont on n'aura peut-être jamais accès.
Ouais, complètement. Et je sais pas si tu voulais...
C'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup d'archives qui sont difficiles d'accès et auxquelles on a du mal à avoir accès, en fait, parce que c'est peut-être des archives qui... sont dans d'autres réseaux un peu plus fermés ou qui appartiennent chez des personnes qui les ont gardées. Donc, je pense beaucoup aux archives lesbiennes qui sont souvent, on a du mal en fait à les retrouver, nous on a du mal à en avoir, on en a pas suffisamment à mon avis, et peut-être que ça va c'est dans d'autres réseaux moins mixtes. Enfin, pareil, on a très peu d'archives trans et ça questionne quand même beaucoup sur à quel point ça a été invisibilisé et qu'il y a eu une volonté quand même presque explicite d'effacement.
Mmh. Ouais. Puis pour les archives aussi queer non blanches, c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément accès. Là, il y a un collectif qui s'est créé, enfin qui est plutôt sur les archives décoloniales, mais c'est des personnes queer qui l'ont monté, qui s'appelle Janub. Ça sera intéressant de bosser avec ces personnes-là aussi pour faire un petit croisement d'archives.
C'est un collectif qui s'est monté à Toulouse ?
Ouais,
okay.
Cette année.
Et donc là, on a parlé de comment on récupère les archives, mais du coup, nous on se demandait aussi, est-ce que une archive, ça se crée aussi ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se créer sur le moment ? Est-ce qu'il y a une volonté de se créer un moment, de relater sur le moment quelque chose pour que ça devienne une archive, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on récupère toujours après coup?
Tout ça, je pense. D'ailleurs, là, tout de suite, quand on fait cette émission, en fait, on crée déjà de l'archive, en fait. À la base, c'est pas une volonté d'archive, c'est une volonté de diffusion, mais en fait, voilà, c'est enregistré, quoi. Donc, il y a une trace. Et l'archive qu'on crée, en fait, on peut toujours créer de l'archive. Ça dépend toujours de... voilà. Enfin, on peut trouver quelque chose et décider que ça sera de l'archive, en fait. Mmh. Si ça a un contexte, si ça a une histoire. L'archive, en fait, c'est quelque chose d'assez... voilà, les mémoires, comme on dit, voilà, quelque chose de plus vivant. c'est quelque chose voilà, qui se fait beaucoup. Nous, on en fait aussi, depuis 2 ans, on fait un événement à l'occasion de la journée du patrimoine qui s'appelle le Fagot Moine. Bon, c'est pas un festival, hein, c'est juste on tient un stand à la Gougnotte avec nos jolis micros et voilà, on écoute des gens nous parler de leur histoire en lien avec des lieux ou avec des groupes de Toulouse et voilà, ça donne de l'espace et aux gens de voilà, se laisser aller à des longs récits. Voilà, on a eu des témoignages assez émouvants, quoi. Donc voilà, là, et puis on a fait de l'archive de nous aussi, parce que bon, il y a certaines personnes du collectif ou affiliées ou qui passaient par là, qui sont venues livrer des récits, quoi. Donc en fait, oui, ça se crée, et puis nous aussi, au sein des Fagottes, au sein d'autres collectifs d'archives, des collectifs de Big Data, on en a déjà parlé, il y a déjà des personnes, même nous, en fait, on fait déjà de l'archivage. On crée de l'archive, en fait, par rapport à ce qu'on a déjà. Déjà, c'est tout bête, on fait de l'archive de nos mails. Mais en fait, c'est un peu bête, mais je trouve que c'est essentiel pour savoir. Mm-hmm. Mais aussi, on fait de l'archive, on fait aussi des ateliers, en fait, pour l'auto-archive. C'est aussi l'objet de beaucoup de discussions avec d'autres collectifs sur comment ce collectif a un désir d'archive et comment ce collectif va faire, comment les personnes vont s'organiser, quel travail ça représente. En fait, c'est quelque chose qui est toujours qui est vraiment une de nos luttes. Ça fait partie de nos luttes aussi, que ce soit ça puisse être individuel ou des collectifs. Voilà.
Et aussi, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, il y a pas mal... aussi, il y a des moments où on fait archive parce qu'on a conscience de faire archive.
Ouais.
Enfin, par exemple, nous, on a un truc avec toutes nos émissions qu'on garde quelque part et tout ça. Ouais. Et je pense qu'il y en a certains d'entre nous qui ont ça en tête de faire archive et il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Mais en fait, après, la radio, c'est la radio et du coup, ça fait des podcasts et du coup, c'est facile aussi à garder. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... d'avoir conscience qu'on fait archive, c'est aussi ça, une partie du mouvement, quoi.
Ouais.
Mais par exemple, là, le bar La Gougnotte a commencé à faire de l'auto-archivage de toutes les affiches, tous les flyers qu'ils avaient, parce que aussi il y avait des fagottes qui ont bossé là-bas et du coup qui ont un peu initié le truc, mais ça prend, quoi. L'idée, c'est de faire un peu ça aussi.
Du coup, on va écouter la deuxième partie des petites annonces. Du coup, c'est celle du journal.
Ouais, du journal Lesbia, et je crois qu'elles sont toutes à peu près des années 1983, même, je crois, précisément. Et ça enchaînera sur une musique, ensuite, dont vous nous parlerez tout à l'heure.
Magazine Lesbia, 1993. Où es-tu ? Moi, 93. JF, 42 ans, douce, un peu ronde, 1m68, cherche F, 40-50 ans, pour longue route sur le chemin de la vie. Je la voudrais sincère, fidèle et non fumeuse. Bisous à toutes.
Lesbia, 1993. À ma Valérie. Bientôt 1 an que je te supporte, mais je t'aime toujours comme une dingue. Tu tiens mon existence et notre amour au fond de ton regard. Alors ne le perds pas, je t'en prie. Merci bébé pour ces 12 mois de bonheur. Je te hais. Karine.
Magazine Lesbia, 1993. Paris, Lyon, région parisienne.
J'ai 22 ans, je suis étudiante. Je recherche une jeune femme d'âge indifférent pour partager avec elle tout ce qu'elle désire et aime. Si vous êtes issue d'un bon milieu social et très généreuse financièrement, l'annonce est claire, non ? J'attends une lettre. Bisous.
Lesbia, 1993. Soirée lesbienne le dimanche. Les goûts doux de la nuit vous accueillent tous les dimanches de 17h à 23h pour les soirées lesbiennes au New York, 40 rue des Blancs Manteaux, 64004, Paris. Entrée 30 francs. NDC, la musique est super et la Marmaid, sans commentaire.
Pick me up, Danny did me. He's got a tattoo of his dick on his belly. It was double vision, disorienting. Danny's kind of a dorky fella. Danny's dramatic, Danny's dark. He ain't nothing like the restaurant. He has HIV positive tattooed in black, and 6-inch letters on his back. Says I want them to see what they've done to me. Danny's reading the Decameron about a plague that came before. 'Cause Danny's dying and Danny don't like it. Danny don't dance no more. He's kinda new age, but Danny's not too smart. Trying to love himself, but doesn't really know how. Got a heart tattoo with his own name in it. Trouble is Danny doesn't really get it. Self-esteem is just a dream for Danny. Danny could be very funny. Says he wanted my asshole tattooed on his chin. But Danny's very demanding, 'cause Danny ain't got long to live. Danny did porno, photos and films, until his tattoos ruin his career. He stares at the video, feeling dejected, helplessly watching himself get infected. Danny's got pneumocystis and a new tattoo as well. Danny got a skull and crossbones smack in the middle of his forehead. Says I want them to see what they've done to me, Danny.
Toujours à Brasero, à Canal Sud, en direct avec les archives TPBGI de Toulouse, les Fagottes. On a écouté une musique, c'est Denis de Pensy Division. C'est une musique que vous nous avez proposée pour l'émission de ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour qu'on sache ce qu'on a écouté ?
Oui. Enfin, du coup, d'abord, je voulais dire merci à Nat de Mémoire Minoritaire, parce que c'est elle qui nous a suggéré ce son. Et du coup, ça, c'est un Pansy Division, c'est un groupe de punk gay des années 90. Et la chanson Danny, elle parle d'une rencontre avec Denis, qui est séropo, et ça parle de la colère face à l'inaction des politiques publiques.
Justement, on voulait vous poser une question par rapport aux archives. C'était, Est-ce que vous, vous avez appris des choses sur les luttes TPBGI en faisant ces archives, et notamment, comme aujourd'hui c'est aussi le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, on avait envie de pouvoir faire avec vous un petit focus sur ces luttes-là, et que vous pouviez nous raconter un peu ce que vous avez appris à travers les archives, ce que vous avez collecté aussi comme archives sur les luttes TPBGI contre le sida.
Oui. En fait, on a découvert quand même pas mal de choses sur les luttes TPG à Toulouse, surtout dans les années 2000-2010, notamment à travers les archives d'un militant de cette époque qui avait passé pas mal de temps de sa vie dans les squats. Voilà, où il y avait quand même pas mal de squats TPG à l'époque. D'ailleurs, il y a un super podcast qui raconte cette histoire de squat à Toulouse qui s'appelle Ni invisible ni oublié.
Vous pouvez trouver sur la page de Bras Zéro à Canal Sud.
Ouais. Du coup, en croisant les fonds d'archives de cette personne avec celui d'ACT UP, on avait vu que parmi les premières réunions d'ACT UP à Toulouse, ça avait eu lieu dans des squats. Et notamment le squat du Clandé, voilà, qui a été expulsé il y a quelques années, il me semble, maintenant. Sur ACT UP, on a aussi découvert des choses avec l'atelier Archigouine qu'on avait fait autour des archives lesbiennes en lutte contre le sida. Et on avait trouvé pas mal de choses voilà, justement, qui concernaient ça, dont des personnes qui avaient, notamment des RCL, qui avaient ramené quelques infos aussi. Et on avait fait quelques... Avec d'autres documents qu'on avait, on a fait un peu des arpentages et des feuilletages de ces Gwyn contre le sida. Donc c'est quand même... ça existe en fait. Et nous, on a aussi eu accès à ces archives grâce à...
En fait, on a eu accès aux archives de Bagdam, enfin on a pu les feuilleter, donc Bagdam qui est un collectif de culture lesbienne, une association de culture lesbienne à Toulouse. En discutant avec elle, elle disait qu'elle avait rien sur la lutte contre le sida, et en fait en feuilletant les archives, on voit qu'il y a plein de flyers, qu'il y a eu plein de rencontres, plein de moments de discussion justement sur les femmes et le VIH, sur les femmes et le sida, un peu moins sur les lesbiennes dans la lutte contre le sida, mais en tout cas voilà, donc il y a des choses, mais il faut vraiment aller les chercher et déterrer un peu tout ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est pas forcément visible, c'est, enfin il y a plein de gens qui ont des archives personnelles de cette époque là et du coup c'est en parlant avec, enfin en faisant des rencontres, que on arrive à recouper un peu les morceaux, mais à croiser les choses.
Et ces archives-là, vous avez déjà fait des événements pour les visibiliser ou pas encore? Vous avez fait un travail avec ACT UP?
Ouais. Bah, les ateliers là qu'on a fait.
Ah oui, voilà.
Mais pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas encore une connaissance du fond assez importante. Mais du coup, c'est l'idée avec le groupe de travail, c'est vraiment l'idée d'aller visibiliser, enfin déjà savoir ce qu'il y a dans ce fond là et puis ACT UP a aussi plein de photos, il y avait la soirée du 1er décembre qui était samedi, la manif et la soirée, et dans le lieu où il y avait la soirée, il y avait des photos de manif de 1995, voilà, donc c'était assez émouvant de voir ça aussi, mais du coup l'idée c'est de pouvoir avoir accès à ça aussi.
Et peut-être pour que ça soit moins compliqué, pour aller moins creuser, on pourrait faire un petit tuto archive pour nos auditeurices, voilà, en exclusivité. Prenez votre petit calepin ou écoutez bien comment on peut faire des archives.
Alors, on n'a pas une méthode... En fait, il y a des gens qui sont très puristes et qui ont fait carrément un petit manuel au fagot avec vraiment plein de techniques très poussées d'archivage. Enfin, voilà. Donc ça, c'est peut-être un peu trop. Mais du coup, nous, ce qu'on avait envie de, enfin, ce qu'on avait envie de vous dire plutôt, enfin, de garder en tête. Enfin, on a un camarade du collectif qui parle de réduction des risques mémoriels. Et que c'est ça, faire le travail d'archivage des luttes TPVGI, c'est de faire de la réduction des risques mémoriels, et donc c'est-à-dire mettre en place des pratiques qui vont réduire les risques de perdre la mémoire. Donc, déjà, quand vous collectez, par exemple, des flyers, ou quand vous prenez des photos, ou quand vous enregistrez un son, il faut garder des éléments de contexte. Donc, vous pouvez noter dans un carnet ou dans un tableur Excel, si vous préférez, ce que vous voulez, la date, le lieu, le type d'événement, plein d'informations, toutes les informations possibles. Et vos documents, il faut les garder dans un endroit qui n'est pas trop humide, enfin le moins humide possible, pas trop à la lumière non plus. Un autre petit tip, c'est s'il y a des agrafes, par exemple, les enlever parce que ça rouille. Du coup, ça abîme le papier ou ça abîme la photo. Donc voilà, ça, c'est de la conservation préventive. Donc il y a un milliard de techniques très poussées. Enfin, on a fait une formation avec Big Data à l'Institut National du Patrimoine. Les grands moyens, quoi. Donc ils époussaient tout avec des petits pinceaux en poil de soie. Bon, voilà, nous, on n'en est pas du tout là, mais... Mais ça se fait comme ça. Et faire des inventaires, lister tout ce que vous avez et décrire tout. Mais voilà, en gros, vraiment le truc à retenir, c'est le contexte pour pas perdre la mémoire.
Surtout, préférez la pâte à fixe au scotch.
On approche tranquillement de la fin, puisqu'il nous reste 2 minutes. On vous remercie vraiment beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. J'ai plein de questions en tête encore qu'on n'a pas eu le temps de poser. J'espère que vous aussi. Comme ça, au prochain atelier, on viendra vous les poser en direct. Et on finit par une musique que vous avez choisie. Mmh. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots avant qu'on la lance et qu'on se quitte ?
Oui, c'est un morceau de Jackie Chan. C'est une chanteuse lesbienne trans noire états-unienne. Ouais.
Les années 60,
voilà.
70.
Voilà. Ouais. Et la musique, moi je la connais pas, donc je te laisse.
Elle vient en fait, c'est toujours Nat de Mémoire Minoritaire qui nous a fait passer un zine. De musique transféminine, c'est une playlist transféminine, et du coup le zine il raconte l'histoire de chaque chanteuse, et la ligne un peu directrice, c'est explorer le temps musical. Donc c'est aussi une archive à part entière, et ça a été fait pendant le FACT, le festival d'art et création trans qui a lieu à Lyon tous les ans.
Eh bien, merci.
Here you come again, and you say that you're my friend, but I know why you're here. She wants to know how. Tell her that I'm happy. Tell her that I'm gay. Tell her I wouldn't have it any other way. People have been talking since we've been apart, and when I pass, I hear them whisper, there he goes with a broken heart. But when you see my baby, here's what you say. Tell her I wouldn't have it any other way. Thank you.
better say goodbye. I think you'd better go right now, or you might see me cry. But when you see my baby, this is what you say. Tell her I wouldn't have been any other way.